LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
1900-1925. Sentir le monde basculer. Épisode 4. Le temps des révolutions artistiques. Un documentaire d'Anne Toscan-Viudès, réalisé par Semanina.
Je suis venue sur un paquebot. Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord.
Joséphine Baker.
Un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique?
Eh bien, monsieur, parce que je savais par mes parents qui sont de la Martinique d'origine qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Est-ce que La Revue Nègre a été votre premier spectacle à Paris?
C'était ma toute première, monsieur. Et ça, comme vous le savez, ça a fait une révolution à Paris dans l'art nègre. Puisqu'avant ça, on ne connaissait pas ce que c'était, pas de quelques statues de temps à autre, mais l'art de jazz et tout ça était tout à fait commencé par La Revue Nègre. De reste, c'est Paul Collin qui m'a lancé.
Est-ce que vous vous souvenez des réactions du public au cours de ces premières, de la présentation de ces premières représentations de La Revue Nègre, puisque vous apportiez une espèce de petite révolution, en tout cas la découverte du jazz et du style New Orleans, n'est-ce pas, d'Armstrong. Je sais que tout de suite vous avez eu un public tout à fait fanatique, et puis aussi probablement qu'il y a eu des gens qui réprouvaient un petit peu, qui étaient hostiles, qui s'écartaient de cette nouvelle forme d'art et de ce rythme entièrement nouveau.
Bien sûr, monsieur. Vous avez compris bien la situation. Du reste, mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas, parce que les gens, la moitié de la salle criait « embossé ». Et j'avais su après que c'était ça qu'ils disaient. Et les autres, les jeunes, les étudiants et tous les jeunes gens qui criaient « bravo », parce qu'eux trouvaient que c'était, comme vous dites, un nouvel style.
L'après-guerre marque une période de révolution artistique sans précédent. Pour représenter ce monde bouleversé, des avant-gardes se constituent et proposent des idées et des regards résolument novateurs. Cubistes, dadaïstes, surréalistes ou futuristes ont en commun, après 4 années de guerre, de ne plus vraiment croire en la transcendance ni au sublime. Alors, ils cherchent à faire surgir la beauté d'endroits plus inattendus. Par l'absurde, le rêve, la magie, par une esthétisation nouvelle de la vie urbaine, mécanique et industrielle, ou par la croyance en certaines idéologies, cette nouvelle génération d'artistes ne propose pas seulement un nouveau regard, mais plus encore, un nouveau système de valeurs. En face de ces avant-gardes apparaît un autre modèle culturel, celui de l'American Dream, vainqueur de la Grande Guerre. Par la TSF ou le grand écran, le soft power américain déferle sur le monde.
La première fois où j'ai eu conscience que le cinématographe existait, c'était pendant la guerre. J'étais pilote dans une escadrille d'aviation.
Jean Renoir.
Et un de mes camarades était le fils du professeur Richet. Et un jour, il revient de permission, il me dit, tu sais, mon père m'a emmené voir un spectacle cinématographique, un comique, un type qui s'appelle Charlot, et mon père prétend que maintenant que le cinématographe a un type comme cela, ça va devenir un grand art. Alors, quand tu iras en permission, va donc voir Charlot. À la prochaine permission, je suis allé voir Charlot, et j'ai été convaincu, ça m'a bien épaté. Néanmoins, je ne pensais pas à faire du cinématographe. Ensuite, j'ai été blessé, j'ai eu des convalescences, je marchais avec des béquilles. J'étais à Paris, je m'embêtais en convalescence, alors j'allais au cinéma. Et j'ai fini par aller au cinéma jusqu'à 3 fois par jour. C'est-à-dire que je voyais une moyenne de 21 films par semaine. De 21 spectacles, parce que chaque spectacle donnant 2 films, ça faisait par conséquent 42 films. Je voyais surtout des films américains. Je connais absolument par cœur tout le cinématographe américain de l'époque 1914 à 1919. le cinéma muet. Et je continue à l'admirer beaucoup. D'ailleurs, depuis que je suis allé à Hollywood, j'ai rencontré tous les gens qui faisaient du cinématographe à cette époque. Et évidemment, c'était des gens très bien. Ils n'étaient pas intellectuels du tout. Ils faisaient ça vraiment comme on fait un métier, un peu comme on fait du cirque.
Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous avez débuté au cinéma? Comment vous avez fait la connaissance du cinéma, Mary Pickford?
J'ai commencé quand j'ai 15 ans, avec Griffith. David Walk Griffith, Biograph Company, in New York.
Vous aviez déjà joué?
Oh
vous
oui,
du théâtre.
Oh oui, 10 ans.
Mais vous avez fait du théâtre enfant, alors?
Oui.
Et alors, comment tournait-on un film à l'époque? C'était certainement beaucoup moins compliqué que maintenant. Ça se passait comment?
Oh, ça m'a pris à peu près 2-3 jours pour tourner chacun. Une bobine.
Ah, parce qu'on tournait des films qui faisaient seulement 300-400 mètres.
Oui, c'est ça.
Et ça se passait à New York?
Oui.
Hollywood n'existait pas?
Non.
Pas. Hollywood a commencé à exister, à naître à quelle époque?
Un an plus tard. 1910.
Et alors ensuite, qu'est-ce que vous avez tourné? Je crois que vous avez tourné aussi aux États-Unis le premier film de Lubitsch aux États-Unis, c'est exact?
Oui, c'est vrai. Rosita. Vrai, vrai artiste, vous savez.
Et Griffith?
Griffith aussi.
Vous avez connu Zucker aussi?
Oui.
Ça a été le premier grand producteur de films?
C'est ça, oui.
Je crois que c'est lui qui a fait les premiers films de long métrage, non?
C'est ça, oui. Bobine. Et j'ai commencé moi-même, le premier film indépendant s'appelle Papa Longchamp.
C'est cela. Vous avez connu Charlie Chaplin à cette époque?
Oui.
Vous avez débuté ensemble à peu près?
Oui, trois ans après, il est venu dans le cinéma, 3 ans après moi.
Le 11 novembre 1918, les cloches et les sirènes annoncent au monde la fin de la Première Guerre mondiale. Ce sont les signaux de la vie après 5 ans de tuerie. Maintenant, il s'agit de reconstruire, de penser et de réconforter. Mais aussi de se réadapter à un monde nouveau, à une vie nouvelle. Car des modes et des goûts inconnus ont sévi un peu partout. L'Amérique a débarqué en Europe et le monde se remet à tourner avec en fond sonore l'écho des orchestres de la Nouvelle-Orléans.
Nous n'avons aucune idée de ce qu'a été l'après-guerre de 1918. Non point parce qu'on sortait de l'horrible cauchemar qu'avait été une guerre particulièrement horrible, meurtrière et qui avait atteint toutes les couches de la société, quelles qu'elles fussent.
Henri Sauguet.
Mais c'est qu'en même temps, tout d'un coup, une chose prodigieuse s'est passée dans le domaine de l'esprit. Vous dire ce que tout à coup a été la révolution totale dans le domaine de l'art, n'est-ce pas? Évidemment, on peut considérer que Picasso, Apollinaire existaient avant la guerre de 14, mais en vérité, ils n'ont été connus, leur œuvre n'a connu cette espèce de prestige et ce grand éclat qu'à partir de ce moment-là. Et il est évident que quand les artistes se sont trouvés nez à nez avec des œuvres qui bouleversaient et qui faisaient éclater tous les canons reçus, quel qu'il soit, une manifestation de cette importance a pris des proportions considérables dans le domaine musical, avec l'apparition du groupe des Six autour d'Eric Satie, dans le domaine de la littérature, avec Cocteau, Sandrars, Morand, je ne peux pas vous dire, enfin j'en oublie les principes, pour Max Jacob et tant d'autres, l'Apollinaire. Si l'on considère encore quels sont les grands phares de notre temps, on trouve qu'en peinture, c'est encore le nom Picasso qui les domine, on trouve qu'en musique, c'est encore le nom de Stravinsky ou de Schoenberg qui les domine, puisque ce sont deux écoles qui se contredisent, mais enfin qui tout de même sont encore en état d'effervescence et de Satie même.
Monsieur Marcel Duchamp, pensez-vous aujourd'hui que le cubisme a apporté quelque chose au peintre que vous étiez vers 1908-1910? D'abord, est-ce qu'il vous a séduit?
Énormément. J'avais 18 ans, 20 ans, et le fauvisme vieillissait déjà. Et le cubisme s'est présenté à ce moment-là comme un coup d'éponge salutaire. Au violon rouge, au violon vert ont succédé les tons neutres du cubisme. Et ça m'a beaucoup attiré. Tous les tableaux que j'ai faits à cette époque-là, qui étaient ou cubistes ou à tendance cubiste, étaient dans cette note neutre.
Mais il semble que le cubisme vous ait seulement attiré pour des raisons de coloriste.
Non, la forme aussi était différente, les deux y sont.
Mais pensez-vous que pendant les années qui ont suivi cette première découverte du cubisme, pensez-vous que vous ayez fait chemin dans la même direction exactement que les autres peintres cubistes?
J'espère que non. Un peintre aime toujours être lui-même, donc j'espère l'avoir été un peu et avoir obtenu une facette du cubisme qui n'était pas celle des autres.
Il est un mouvement littéraire, ou du moins un mouvement esthétique, de la dernière après-guerre, que nous n'avons pas eu l'occasion d'interroger. C'est le célèbre mouvement Dada. Nous avons ce soir la bonne fortune de recevoir la visite de son créateur, Tristan Tzara, en personne. Tzara est un homme petit, avec des lunettes, des yeux assez gros et des cheveux très gris. Il a l'air tout à fait gentil, je dirais même sage. Et pendant que j'essaye de le décrire, il sourit d'une façon assez ironique. Mais je m'en vais lui passer la parole, car après tout, c'est à lui de vous expliquer quelle est l'histoire du mouvement Dada, à laquelle il a présidé. Tzara, je vous passe la parole.
Bien, mon cher ami, vous savez que Dada est né en 1916, en pleine guerre mondiale à Zurich, en Suisse. Nous étions quelques jeunes poètes, écrivains, peintres, qui étions profondément dégoûtés de la guerre. Et dans ce dégoût, nous englobions aussi bien les formes sociales qui avaient engendré cette guerre que les formes d'art qui en résultaient. Et il faut dire que la logique, par exemple, pour nous a été un des chevaux de bataille contre lesquels nous nous sommes rués avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Nous voulions ressortir l'absurdité de la vie, enfin ce côté absurde, si vous voulez, de la vie, qui échappe au contrôle de la logique et de la raison, et qui faisait que ces guerres pouvaient avoir lieu à ce moment-là, et les désordres dans lesquels nous vivions. Et nous avions fait nôtre la phrase de Rimbaud, « Maintenant je sais que l'art est une sottise ».
Qu'est-ce qui constituait ce premier groupe Dada à Zurich en 1916? Vous aviez 20 ans à l'époque, je crois.
C'est exact. Je suis né en 96. Eh bien, il y avait des représentants de toutes les nations qui étaient en guerre, si vous voulez, et nous étions internationalistes dans ce sens que nous ne reconnaissions pas la séparation des frontières qui existait à l'époque.
Oui, mais pourriez-vous citer quelques noms parmi vos compagnons de la première heure?
Oui, il y avait Hans Arp, qui est alsacien. Il y avait Ilsenbeck, qui était allemand et profondément antimilitariste, Hugo Ball, qui par la suite est devenu catholique, un peu plus tard, nous avons eu l'adhésion de Francis Picabia, qui est venu me voir en Suisse, et tout de suite après, le groupe littérature qui était formé par Aragon, Breton, Soupeau et Paul Éluard.
Pouvez-vous nous confier quelques souvenirs?
Pourquoi pas?
André Breton.
Sac au dos, vous connaissez cette nouvelle de Huysmans? Un des chefs-d'œuvre du naturalisme, qui prend place dans les soirées de Médan. Eh bien, il suffirait de transposer cela quelque peu, de le maintenir un peu moins à ras de terre, pour se faire une idée de l'humeur de certains jeunes gens dont j'étais, que la guerre de 1914 venait d'arracher à toutes leurs aspirations pour les précipiter dans un cloaque de sang, de sottises et de boue. Pour ma part, le premier moment de stupeur passé, quelques mois de classe d'artillerie, je m'étais mis à promener un regard plus qu'interrogateur autour de moi. Tout près, au cantonnement même, les plus sensibles s'étaient secrètement trouvés un refuge. Tel d'entre eux sauvait ses rares loisirs en dessinant de nouveaux modèles de robes. À la lecture des punitions que lui valait sa totale inaptitude aux exercices militaires, il se bornait à élever à sa narine un minuscule flacon d'essence d'ambre. Tel autre, au premier mot de repos ou de halte, s'enfouissait dans les épîtres aux Corinthiens. Même plus ou moins voilés, les désastres du début, les sombres perspectives de la guerre de tranchées, l'issue incertaine du conflit entraînait un état d'âme, il faut bien user de ces mots, où la résignation trouvait difficilement place.
Cette jeune génération de poètes, c'est une génération qui va être marquée par ce carnage injustifiable, disent-ils, cette duperie monstrueuse qu'est la guerre, et qui vont se retrouver traumatisés par cette situation de destruction, de ruine, d'absurdité qui va engendrer donc, chez cette jeune génération de poètes le besoin d'insurrection, d'émancipation de l'esprit. Il y a le parcours d'André Breton, hein, qu'on connaît bien, qui est mobilisé, lui, au 17e régiment d'artillerie, et il va être envoyé faire ses classes à Pontivy. Il est ensuite affecté comme infirmier militaire à l'hôpital bénévole de Nantes, puis à sa demande au centre de neuropsychiatrie à Saint-Dizier. Et c'est là où il va être en contact direct avec des malades atteints de psychopathologie. Il va être notamment chargé d'interroger les soldats commotionnés. Il va être envoyé à partir de 1916 au front comme brancardier. Et puis en 1917, il va être interne au centre neurologique de la Pitié, puis médecin au Val-de-Grâce. Et c'est pendant cette expérience du Val-de-Grâce qu'il va rencontrer Aragon. Aragon, donc c'est à ce moment-là qu'il va être mobilisé. Et il va rejoindre le front au printemps 1918 comme médecin auxiliaire. Il va ressortir, lui, de cette expérience de la guerre médaillée avec la croix de guerre, mais traumatisé par l'expérience des chers blessés, par la violence extrême des tranchées. Et il va ensuite rester mobilisé jusqu'en juin 1919 en Rhénanie occupée. Et puis, le troisième protagoniste, c'est Soupeau. Donc lui, il a une expérience différente aussi de la guerre. Il va être brièvement affecté au régiment des cuirassiers de Tours, puis muté au 33e régiment d'artillerie d'Angers. Mais il va servir de cobaye pour un nouveau vaccin contre la typhoïde. Et ça va être des résultats absolument désastreux qui vont lui valoir des mois d'hospitalisation, avec de multiples rechutes et des problèmes vraiment de santé désastreux. Et c'est dans un lit d'hôpital qu'il va écrire son premier poème, Départ. Soupeau dira, nous avions un peu plus de 20 ans. À la fin d'une guerre, nous étions désespérés.
André Breton, pourriez-vous situer un point? À quel moment les prémices d'une nouvelle sensibilité qui annonçait le surréalisme se sont-elles manifestées chez vous? À la suite de quel événement?
Ma foi, vous savez qu'il est assez difficile de remonter le cours de sa propre sensibilité. On voit bien ce qu'on est devenu au cours de la vie, quels événements ont marqué. Mais ce qui se dérobe toujours, ce qui reste plus ou moins voilé, c'est ce qui a pu catalyser ces événements, c'est ce quelque chose qui a fait que la vie mentale a pris telle ou telle tournure. Ma première réaction cohérente avait été de me tourner vers ceux que je croyais en mesure de faire entrer quelque lumière dans cette fosse aux murènes. Soit d'abord vers ceux qui avaient parlé haut ou loin jusqu'alors, et que raisonnablement on pouvait tenir pour les plus aptes à dominer la situation, quels déboires aussitôt. Qui se trouverait aujourd'hui le courage de relire les articles que purent alors commettre les Barrès ou les Bergson? Il n'y avait rien là qui s'élevât au-dessus du niveau d'expression d'une presse mercenaire, qui fût susceptible de me faire prendre ma condition même en patience. Le nationalisme n'avait jamais été mon fort.
«
l'antimilitarisme il est consubstantiel par cette naissance au moment de la guerre, mais là où c'est absolument décisif, c'est que cette jeune génération de poètes pense que cette Première Guerre mondiale doit être la der des dernières guerres, et en fait toute l'histoire du surréalisme est une histoire traversée par les guerres. Ce sera la guerre du Rif marocain en 1925, ce sera pendant les années 30 évidemment la guerre d'Espagne, ce sera la Seconde Guerre mondiale. Le surréalisme se construit ou se positionne systématiquement par rapport à la question de la guerre, et cet antimilitarisme, il est présent tout du long.
Comment dans ces conditions n'aurais-je pas été tenté de demander secours aux poètes ? Que pensait-il de l'effroyable aventure ? Pour moi, il y avait alors un homme dont le génie poétique m'éclipsait tous les autres, faisait à tout instant point de mire. C'était Guillaume Apollinaire.
En 1917, c'est l'année où il y a une reprise vraiment de l'activité littéraire par Apollinaire, qui va notamment permettre la rencontre entre Soupeau et Breton. Et 1917, c'est l'année de la représentation, de l'unique représentation des Mamelles de Tirésias, donc drame surréaliste, le 24 juin 1917 à Montmartre, qui va avoir un effet là aussi décisif sur Breton, Soupeau et Aragon qui sont présents à cette représentation. C'est de là que les surréalistes tirent le nom de surréalisme. Apollinaire ne sera pas l'inventeur du surréalisme, mais en tout cas, il a cette forme de paternité. Et au moment de la mort d'Apollinaire, donc le 9 novembre 1918, ça va être une perte terrible pour André Breton, pour Aragon et toute cette génération-là. Et en même temps, ça va laisser une place libre pour créer, là encore, quelque chose de nouveau et prendre le relais sur le terrain poétique.
J'ai eu l'occasion de raconter que Vacher, arrivant du front en permission, m'y avait donné rendez-vous. La pièce avait commencé avec un retard de près de 2 heures sur l'horaire. Assez décevante par elle-même, elle était en outre médiocrement interprétée et les spectateurs, déjà énervés par l'attente, avaient accueilli le premier acte par des clameurs. Une recrudescence de l'agitation en un point précis de l'orchestre ne tarda pas pour moi à s'expliquer. C'était Jacques Vacher qui venait d'entrer en uniforme d'officier anglais. Pour se mettre immédiatement au diapason, il avait dégainé son revolver et paraissait d'humeur à s'en servir. Je le calmai de mon mieux et réussis à lui faire endurer, non sans grande impatience, la fin de la représentation. Jamais comme ce soir-là, je n'avais encore mesuré la profondeur du fossé qui allait séparer la nouvelle génération de celle qui la précédait.
C'est à cette époque aussi, il me semble, que le rôle de Marcel Duchamp devient extrêmement important à vos yeux.
Oui, c'est également par Picabia qu'on a des nouvelles fort agitantes de Marcel Duchamp. Son évolution a été des plus singulières. Après avoir, de 1911 à 1913, apporté un tribut de toute originalité au cubisme et au futurisme dans des toiles désormais célèbres comme « Nu descendant un escalier », Le roi et la reine traversés par des nues vites. Il a fait œuvre d'iconoclaste en signant des objets tout faits tels qu'un porte-bouteille, une pelle à neige, un urinoir. Avec une pire désinvolture encore, il a signé une reproduction en couleur de la Joconde après l'avoir ornée de moustaches. À ce moment, on reste à Paris, très imparfaitement informé de ce qu'a pu être le mouvement Dada à Berlin sous l'impulsion de Richard Hülsenbeck. Mais on ne tardera pas à en connaître une éclatante réaffirmation à Cologne, celle-ci d'importance fondamentale, autour de Max Ernst. Le trait d'union entre l'esprit de Max Ernst et celui de Zara est fourni par Harpe, qui a passé la guerre à Zurich avec ce dernier. Ce qui nous importe, c'est que le même courant se dessine dans les deux pays qui étaient hier ennemis. Il ne saurait à nos yeux trouver meilleure justification de lui-même.
Et puis alors, il y a eu des tas de choses. Il y a eu autour de Jean Cocteau, qui demeure quand même la véritable étoile de ce demi-siècle. Je ne l'avais pas encore dit, parce que tout le monde le sait. Il y avait autour de Jean Cocteau les six.
Georges Ory.
C'est à cette époque-là que j'ai fait la connaissance de Picasso, de Stravinsky, de Satie, de Léon-Paul Fargue, enfin de tous les gens importants de cette époque. C'est à ce moment-là qu'on a revu Diaghilev avec des merveilles, qu'on a commencé à remonter des ballets étonnants. C'est à ce moment-là également que s'est ouvert, je n'en parlerai pas parce qu'on en parle tous les 48 heures, pendant 48 heures, de début du Bœuf sur le Toit, etc. Mais enfin, ça date exactement de cette époque-là.
Les gens du monde et les intellectuels de la rive gauche ne savent plus où donner de la tête. D'autant plus que des inconnus nommés André Breton, Louis Aragon et Paul Éluard viennent d'inventer le surréalisme, une merveilleuse machine infernale qui ne pardonne pas.
Les surréalistes affirment « nous sommes bien décidés à faire une révolution ». Je cite « nous avons accolé le mot de surréalisme au mot de révolution uniquement pour montrer le caractère désintéressé, détaché et même tout à fait désespéré de cette révolution ». Ils disent être dans ce même tract des spécialistes de la révolte et surtout ils insistent « le surréalisme n'est pas une forme poétique, il est un cri de l'esprit qui retourne vers lui-même et est bien décidé à broyer désespérément ses entraves ».
Pourriez-vous préciser un point important? Le groupe surréaliste était-il unanime dans son ambition révolutionnaire?
Qu'il s'agisse de la ferme intention de briser le rationalisme fermé, comme de la contestation absolue de la loi morale en cours, aussi bien que du projet de libérer l'homme par l'appel à la poésie, au rêve, au merveilleux, ou du souci de promouvoir un nouvel ordre de valeurs, sur ces différents points, l'accord est entre nous total. Mais sur les moyens d'y parvenir, on n'évitera pas certaines divergences, tenant à la complexion psychologique de chacun.
Champ magnétique, tu sais que ce soir il y a un crime vert à commettre? Comme tu ne sais rien, mon pauvre ami. Ouvre cette porte toute grande et dis-toi qu'il fait complètement nuit, que le jour est mort pour la dernière fois.
Un des moments effectivement fondateurs qui pourrait être tout à fait aussi une des dates de naissance du surréalisme, c'est l'écriture puis la publication des chants magnétiques par André Breton et Philippe Soupeau, où effectivement on a l'idée sous la dictée de l'inconscient qui va être un des moments fondateurs en fait de la création surréaliste. Une autre date qu'on pourrait donner, c'est celle de 1922 qui sera marquée par l'article « Entrée des médiums » qui sont réalisés dans un premier temps au 42 rue Fontaine chez André Breton, puis 1924, la reprise de l'écriture automatique, les récits de rêve qui occuperont les premières pages de la révolution surréaliste.
Je ne me suis pas fait faute de mentionner les vicissitudes que l'écriture automatique avait pu connaître dans le surréalisme. La principale de ces vicissitudes tient au fait que, entre ceux qui s'y livraient, la compétition sur le plan esthétique n'a pu être complètement évitée et qu'au moins a posteriori un choix s'est établi, ne laissant subsister que des bribes du message considéré comme les mieux venus. À vrai dire, cela n'a pas tant d'importance qu'il peut paraître. L'essentiel est que le climat des productions automatiques se soit fait sentir, que l'esprit ait eu vent d'une contrée dont la flore et la faune sont reconnaissables entre toutes, mais surtout dont la structure apparemment la même pour tous, ne demande qu'à être révélée.
Le cadavre, exquis, boira, le vin, nouveau. Cadavre exquis, définition. Jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.
Sur le plan plastique, ça se définit beaucoup plus à partir de 1925 sur les possibilités d'un automatisme qui se traduirait d'un point de vue plastique et pictural. Et les modèles décisifs vont être celui du collage qu'il aborde à travers le cas de Max Ernst, qui paraphrase la célèbre formule de Lautréamont, beau comme la rencontre fortuite sur une table à discussion d'une machine à coudre et d'un parapluie, donc qui favorise les affinités spontanées, qui favorise les contradictions, le pouvoir de choc dans la représentation. Viendront aussi les frottages, les grattages qui sont également élaborés par Max Ernst. À partir de l'arrivée de Masson à la fin de l'année 1924 aussi, les premiers essais donc, de dessins automatiques, puis les peintures sur sable qui vont voilà, donner un versant plastique effectivement à cette idée d'automatisme qui avait été élaborée d'abord d'un point de vue écrit et puis on pourrait continuer comme ça sur tout un tas de pratiques, des cadavres exquis aux objets surréalistes qui permettent là aussi de faire intervenir ce modèle intérieur, faire intervenir aussi le monde inconscient, le monde du rêve dans la production plastique.
Le 15 août 1920. Il est convenu entre nous, Madame Cariatis, artiste chorégraphique, et Eric Satie, compositeur de musique, que M. Eric Satie livrera 3 morceaux d'orchestre, piano, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, une petite flûte, une clarinette, un cor, une trompette, un trombone et une batterie, pour spectacle que Madame Cariatis donnera. M. Eric Satie s'engage à céder le droit exclusif de danser personnellement les morceaux à Madame Cariatis.
Alors après ça, si vous voulez, à partir de 20, alors il y a eu des choses tellement, tellement merveilleuses qu'il faut, simplement les nommer. Je me rappelle peut-être que la chose qui m'a le plus impressionné, ça a été, je ne sais pas si vous vous rappelez cela, il y avait un endroit qui, je crois, était au coin de la rue de Grammont.
Jean-Henri Rivière.
Qui s'appelait le Frolix.
Frolix, oui, je me rappelle fort bien.
Et il y a eu tout d'un coup, on a annoncé qu'il y avait 4 musiciens qui étaient à la fois des clowns et qui s'appelaient les White Lyres. Et on m'a dit, il faut absolument voir ça, c'est des gens qui font des pirouettes en jouant et qui jouent de tous les instruments. Et je dois dire que j'ai vu une des choses les plus merveilleuses que je pouvais imaginer, c'est-à-dire 4 musiciens qui étaient des instrumentistes de grande classe, et qui effectivement jouaient en sautant, en dévalant les rampes d'escalier. Enfin, c'était vraiment une chose extraordinaire et qui m'a beaucoup dans la suite, qui a facilité mon énorme goût de la musique négro-américaine. Après ça, j'étais en Amérique.
Un certain cycle de scandales se boucle à ce moment précis avec le banquet Saint-Paul-Roux. Les disciplines auxquelles certains de nous vont s'astreindre par la suite ne sont pas encore définies. On est, je le rappelle, au milieu de l'année 25. Les surréalistes constituent un groupe homogène, extrêmement serré. Ils partagent les mêmes convictions fondamentales et sont amenés à cultiver entre eux les causes d'irritation reçues de l'extérieur qui, bien entendu, ne manquent pas. Le matin même du banquet, leurs signatures ont paru au bas de la protestation élevée par les intellectuels contre la guerre du Maroc qui vient d'éclater.
1921. Suite à une victoire militaire décisive lors de la bataille d'Annual,
l'indépendantiste marocain Abdelkrim proclame l'indépendance de la République du Rif contre l'impérialisme colonial espagnol. Les tribus berbères sont de plus en plus nombreuses à rallier cette nouvelle république qui cherche à s'affirmer comme un contre-pouvoir légitime face aux puissances coloniales. La France, craignant que cette révolte ne menace ses possessions au Maroc, allie ses troupes à celles de l'Espagne. Si les armées rifaines opposent une résistance solide, notamment grâce à une grande connaissance du terrain montagneux, les armées françaises et espagnoles n'hésitent pas à convoquer toute la puissance technique de leur attirail militaire, notamment via le recours aux avions et aux gaz toxiques. À court d'hommes et de ressources, Abdelkrim se rend finalement aux forces françaises le 27 mai 1926. Cette guerre du Rif, si elle se solde par une victoire des forces coloniales européennes, pose à la société d'après-guerre la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du bien fondé de l'idéologie impérialiste. Parmi les avant-gardes artistiques, des discours en faveur de la décolonisation commencent à se faire entendre.
Cet antimilitarisme va aussi nourrir donc l'antinationalisme, l'antipatriotisme qui va être au cœur des engagements du surréalisme et qui va aussi expliquer la volonté internationale de ce mouvement. Et le surréalisme est un mouvement profondément international qui va essayer de dépasser toutes les frontières de l'esprit, mais les frontières géographiques et les frontières culturelles également. Et entre les deux guerres, toute cette période qui est quand même une période de montée des nationalismes absolument partout en Europe, voire à l'échelle mondiale, les surréalismes, eux, vont créer des rencontres, des collages, des ramifications, des correspondances avec un réseau de poètes et d'artistes qui s'établit à l'échelle internationale. Et effectivement, pendant la guerre du Rif, les surréalistes vont prendre position dans cette guerre qui oppose les combattants dirigés par Abdelkrim à l'armée espagnole, puis à l'armée française à partir de 25. L'antimilitarisme et l'antipatriotisme, il est vif depuis la Première Guerre mondiale, mais là, il est d'autant plus qu'il y a une intervention dans un autre pays, en tout cas une faillite cette fois à l'étranger. Il va y avoir le scandale au banquet en hommage à Saint-Paul Roux à la Closerie des Lilas, où Michel Léris va finir à la fenêtre en hurlant à la France, vive Abdelkrim, et va pas manquer de se faire passer à tabac par une foule amassée sur le boulevard. Effectivement, alors, on a déjà un impérialisme colonial qui est dénoncé à ce moment-là comme un corollaire du capitalisme, le conflit au Maroc étant évoqué au même titre, par exemple, que le conflit inapaisable des revendications ouvrières et sociales. Donc c'est vraiment une dénonciation très large sur la question de l'oppression. Et c'est une étape assez essentielle, ce tract pour les surréalistes, parce qu'on considère que c'est aussi le moment où ils acceptent d'endosser explicitement une dimension politique à la révolution surréaliste. En tout cas, c'est effectivement le moment où Breton lit le Lénine de Trotsky, et c'est aussi le moment où certains membres commencent à envisager une adhésion au Parti communiste.
Entre 1920 et 1930, j'ai assisté à la naissance de la musique de jazz depuis le jour où Jean Vienner la tint sur les fonds baptismaux du concert et interprète à Salle des agriculteurs des blues entre des œuvres de Bach et de Stravinsky. Quelle controverse, quel sarcasme, quelle bagarre provoqua cette initiative. On cria au sacrilège, ce fut une sorte de bataille d'Hernani de la musique syncopée. Tout le firmament musical de l'entre-deux-guerres me semble illuminé par ces fusées sonores que les airs de blues firent éclater sur les préoccupations de notre jeunesse. Non seulement la musique syncopée a parfois influencé nos plus grands compositeurs, mais elle a créé un style de vie tout différent, par exemple, de celui que les chansons de Kafkons déterminèrent chez nos grands-parents. La musique de jazz a servi de toile de fond à nos souvenirs les plus précieux, à nos entreprises les plus exaltantes. Elle a eu la vertu d'un fixateur d'images, et il nous suffit de réentendre aujourd'hui certains airs, jadis fameux, pour que le passé ressuscite et nous restitue avec une précision miraculeuse l'atmosphère et la couleur d'un temps disparu. L'album de disque comme un album photographique. Nous y retrouvons, à travers les contours mélodiques de certains blues, un foisonnement de souvenirs personnels, heureux ou mélancoliques.
Mélusine après le cri, Mélusine au-dessous du buste, je vois miroiter ses écailles dans le ciel d'automne. Sa torsade éblouissante enserre maintenant par trois fois une colline boisée qui ondule par vagues selon une partition dont tous les accords se règlent et se répercutent sur ceux de la capucine en fleurs. Mélusine, c'est bien sa queue merveilleuse, dramatique, se perdant entre les sapins dans le petit lac qui, par là, prend la couleur et les filets d'un sabre. Oui, c'est toujours la femme perdue, celle qui chante dans l'imagination de l'homme. Mais au bout de quelles épreuves pour elle, pour lui, ce doit être aussi la femme retrouvée. Et tout d'abord, il faut que la femme se retrouve elle-même, qu'elle apprenne à se reconnaître à travers ses enfers, auxquels l'avoue sans son secours plus que problématique la vue que l'homme, en général, porte sur elle.
Quand le premier numéro de la Révolution surréaliste est publié en octobre 1924, la Révolution surréaliste, dans son sens politique, trouve son incarnation dans le visage de la militante et ouvrière Germaine Berton, qui est donc photographiée, ou en tout cas son portrait est reproduit dans ce numéro 1 de la Révolution surréaliste. Germaine Berton, qui donc avait, le 22 janvier 1923, abattu de plusieurs coups de revolver Marius Plateau, secrétaire de la Ligue d'Action Française. Et en décembre, son procès à Germaine Berton va vraiment créer la polémique avec l'idée que l'assassinat politique choque d'autant plus qu'il a été commis par une femme. Et les surréalistes vont prendre fait et cause pour celle qui incarne, à ce moment-là, à leurs yeux, l'anarchie et le suicide, la révolte morale et la révolte politique. Et Germaine Berton, elle inaugure la série des anti-héroïnes du surréalisme, qui va entraîner, donc, dans son sillage, les anonymes suicidés et les meurtrières des faits divers qui sont cités dès le premier numéro de la Révolution surréaliste, et plus tard, en 1933, les sœurs Papin, qui assassineront leur patronne, et en 1934, Violette Nozière, qui tuera son père violeur. Berton, les sœurs Papin, Nozière, incarnent ce que Aragon parle d'une absolue liberté, et elles ouvrent la voie, en tout cas, à des actes d'insurrection contre les conditions répressives des systèmes de contrôle mental, social, familial, politique. En retour, ce panthéon d'anti-héroïnes, qui sont célébrées pour leurs actes d'insurrection, leur représentation dans le surréalisme, participe aussi, de manière contradictoire, à la constitution d'un répertoire de muses qui cristallise les projections et les désirs masculins du groupe. Et on arrive ici dans cette zone d'ambivalence, en tout cas, du surréalisme par rapport à la représentation des femmes dans le mouvement.
Pourriez-vous nous parler aussi de l'atmosphère de la vie parisienne à cette époque?
Eh bien, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance. Immédiatement, j'étais adoptée par les Parisiens. Et je pense, sans que ça ne serait pas prétentieux de dire que je suis toujours le Joséphine. C'est Pierre Lazareff qui a décrété. C'est Pierre Lazareff qui a décrété que j'étais l'enfant adoptif de Paris. Parce que, naturellement, comme vous avez expliqué ici, justement tout à l'heure, j'étais tout à fait seule, j'étais évadée de chez moi, de ma maison, ma famille, pour venir à Paris. Car je savais qu'à Paris, je trouverais mon chemin.
Est-ce que vous vous sentiez dépaysée à Paris?
Au contraire, monsieur. Pensez-vous, personne ne peut se sentir dépaysé à Paris. C'est pour cela que tous les étrangers viennent ici et on est engorgé.
Pourquoi?
D'étrangers.
Ah oui, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'étrangers et c'est bien tant mieux, ma foi.
Ça, c'est Paris! Ça, c'est Paris!
L'après-guerre marque le triomphe culturel des États-Unis. Le jazz, Hollywood et les charmes d'un American way of life moderne et sophistiqué font rêver le monde entier. Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Louise Brooks sont des vedettes internationales. Et le cinéma, qui 20 ans plus tôt faisait encore office de curiosité, est désormais une industrie en plein essor. La danseuse et chanteuse Miss Tinguette, icône des années folles françaises, traverse l'Atlantique en 1923. Elle déclare au New York Times « J'espère plaire aux Américains. Après ça, plus rien ne pourrait me faire rêver. De quoi voulez-vous rêver après New York ?»
As-tu bien supporté le climat américain, la nourriture ?
Oh oui, avec toutes ces rues en angle droite. New York est la ville des courants d'air. Il paraît que c'est très sain, mais moi j'adore ça. Mais c'est sain, paraît-il. Quand on n'en meurt pas, là, évidemment. Faut s'y habituer, comme toute la, pour la nourriture. Mais moi, j'adore les hot dogs.
Hot dogs, traduction chien chaud. Il serait peut-être nécessaire que tu expliques à nos auditeurs que tu mangeais pas de vrais chiens. Sans cela, tu risques des ennuis avec la société protectrice des animaux.
Oh, toi, t'es rigolo, toi, alors. En Amérique, on appelle hot dogs chien chaud, des saucisses de Hambourg que l'on sert bouillantes, bourrées de moutarde, avec un petit pain tout chaud. Oh, c'est ce que c'est bon, tiens. Tiens, j'en mangerai maintenant, si oh,
pas moi, pour ceux qui aiment ça.
Oh, ben pourquoi? T'aimes pas ça, toi?
J'aime ça, mais pas à cette heure-ci.
Eh ben, moi, j'aime. Moi, j'aime aussi les ice cream, les gâteaux à la cannelle qui sentent la parfumerie, et puis les bonbons à la noix de coco.
Ah, alors je comprends que tu ne sois plus en Amérique.
Tu penses? Moi qui aime à me coucher tard. Je pouvais aller me commander une robe ou me faire une permanente à 4 heures du matin si l'envie me prenait.
Ah, c'est vrai. Les magasins et les boutiques de Broadway restent ouverts toute la nuit.
Malgré tout ça, tu sais, on est rudement content de revenir en France, de revoir Paris, mon Paris à moi.
Votre firmament, c'est très gentil, très charmant, plein d'agréments. On y sent flotter une odeur de sainteté, de propreté, c'est bien époussé. On nage dans le bleu, on a des compètes un peu, ce qu'on veut. C'est très épatant, le ciel n'a pas son pendant, et cependant... Le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Quelle est la terre que Moïse promit, c'est Paris. Sa force est tellement vitale que dans cette capitale, tous les plus petits ont des péchés, sitôt deviennent péchés capitaux. Qu'est-ce que d'abord Sainte-Geneviève défendit, c'est Paris.
Le paradis, c'est Paris. Au moins aux yeux des Américains, qui se pressent vers la capitale française au lendemain de la guerre. Gertrude Stein, Francis Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway forment la Lost Generation. Ces intellectuels racontent la difficulté d'habiter le monde et d'y trouver un sens au lendemain de la Grande Guerre. Ils évoquent avec cynisme la recherche de l'amour, le goût de la fête, mais aussi le dégoût de la prohibition et des politiques américaines répressives et puritaines qui font préférer à cette génération perdue l'insouciance de la liberté parisienne. Parmi les hauts lieux de cette effervescence culturelle, la librairie Shakespeare & Company, fondée en 1919 par la libraire et éditrice Sylvia Beach. Sa compagne, Adrienne Monnier, qui est aussi l'un des personnages centraux de cette Lost Generation, se souvient.
Maintenant, j'aimerais parler parmi les amis américains que j'ai rencontrés. Ernest Hemingway, que nous avons connu tout de suite après la guerre, qui n'avait encore pas publié de livre et qui était correspondant, je crois bien, d'un grand quotidien canadien. Et c'est son ami Robert McCallum qui avait fondé à Paris une maison d'édition, les éditions Contact, qui a été son premier éditeur, qui a édité 3 histoires et 10 poèmes. Et c'est un autre Américain, un grand, excellent journaliste, William Byrd, qui avait fondé aussi une autre maison d'édition, les Presses des Trois Montagnes, qui a été l'éditeur de son 2e livre, In Our Time, Dans Notre Temps. C'est amusant, hein, tous ces Américains qui faisaient des maisons d'édition, c'était bien gentil. Et nous avons connu aussi, très vite, Gertrude Stein. Nous avons été chez elle, dans son fameux appartement de la rue de Fleurus. Elle avait des Picasso merveilleux. Je me souviens d'un coffre plein de dessins de Picasso, tellement beaux, tellement émouvants. Maintenant, je dois avouer que quand je regarde les Picasso, qui ne m'enchantent pas toujours, je pense à ce coffre.
«
C'est une société qui vit entre deux catastrophes. Celle dont elle guérit difficilement par la liberté et le crash de Wall Street qui va la reprécipiter dans un autre univers, l'univers de la nécessité. Devant l'immensité des maisons, des moyens d'existence ou de communication à construire ou à reconstruire, il a fallu sans cesse que les sociétés de 1919 à 1929 fassent appel à l'inflation. L'inflation est une inflation à peu près continue. Elle est galopante, par exemple, dans l'univers de l'Allemagne décomposée, qui, elle, a contre elle encore le fait d'avoir perdu cette guerre.
L'ombre des catastrophes à venir plane déjà sur l'apparente légèreté des années folles.
Allons, ce n'est pas le moment de penser au passé. Habille-toi, Rachel.
M'habiller ?
Ce soir, nous allons voir la Veuve Joyeuse.
Avec le feu, on cire aussi toujours un peu. Et lorsqu'on croit qu'il est éteint, une étincelle vous attend.
André ?
En Italie, les coups de force fasciste se multiplient. Après avoir fondé son mouvement Faisceau Italien de Combat en 1919, Benito Mussolini et ses partisans font échouer par la violence les vagues de grève de l'année 1922, occupent des bâtiments administratifs et constituent des escouades d'action chargées de réduire au silence leurs opposants.
Duce, on vient de téléphoner de Rome. Le Conseil des ministres a pris la décision de proclamer l'état de siège dans toutes les provinces du royaume à partir de midi, aujourd'hui 28 octobre.
Ils sont osés. Eh bien,
voilà.
Viens, Rachel. Demain, les fascistes marcheront sur Rome.
Et ils marchaient.
Le 28 octobre 1922, ce sont 30 000 partisans fascistes qui marchent sur Rome et permettent à Mussolini, malgré les réticences du roi Victor Emmanuel III, de devenir président du Conseil.
Prince, Trière, avant-gardiste, Malini, âme fasciste, peuple travailleur de Crémone et de la province, la marche que vous avez commencée ne peut s'arrêter avant d'avoir atteint le but suprême, Rome.
Vive Mussolini ! Vive Duce !
Des partis d'extrême droite voient le jour et tirent profit de cette situation pour faire valoir des idées nationalistes soutenues par un esprit revanchard. Le 8 novembre 1923, à peine plus d'un an après la marche sur Rome, le dirigeant du Parti national socialiste des travailleurs allemands, un certain Adolf Hitler, tente un putsch dans une brasserie de Munich.
Ah bah si c'est ça de la bière, moi je suis prussien. Non mais quelle saloperie. Franchement, ça devrait pas être permis ça.
Bah, pour être indulgent, Franz. Pas cher cette bière. 15 millions de marques la chope, c'est raisonnable.
Mais c'est plus marque qu'il faut dire. Ah non, c'est Rentenmark.
Ah,
oui. Paraît que c'est beaucoup mieux. Rentenmark, ouais. Nouvelle monnaie contre la vie chère. Ça, c'est la dernière invention des trains de savate de Berlin pour sauver le Reich, comme disent ces messieurs.
Ouais, ben, il est beau, le Reich. C'est une belle invention pour les paresseux et les voleurs. Tous les gueux de Saxe et de Brandebourg se font nourrir par nous autres. Moyennant quoi, les grotesques se baladent sous les tilleuls en parlant de la grandeur de l'Empire allemand. Heureusement que le père Deckard vient d'en finir avec ses simagrées. Hein. Je ne ressens pas encore les effets, mais indépendant, j'avoue que je me sens mieux. Je prendrais bien un petit cigare.
Oh, ben non.
Ah, mais monsieur, voyons, en l'honneur de la Bavière libre.
Oh, non.
Allez, laissez-vous faire. C'est tellement modeste. Un petit cigare à 30 millions de rentes.
Allô, allô, Paris ? Ah bon, bon, j'attends. Mais dépêchez-vous. Allô, allô, Paris ? Ah, bon, mademoiselle, alors prenez, c'est urgent. Et croyez-moi, ça vaut la une. Alors, en titre, l'insurrection nationaliste écrasée. Munich, 9 novembre, 13h. pour répondre au désaveu du commissaire d'État de Kahr, le colonel général Ludendorff et M. Hitler, l'agitateur dont nous entretenions nos lecteurs depuis quelques jours, ont lancé leurs troupes à travers Munich pour tenter de dégager leur ami Röhm, occupant le ministère de la guerre. Au premier barrage, la police impressionnée par Ludendorff, en civil, sans armes et marchant les mains dans les poches, a laissé passer le cortège. À noter que les chefs étaient tous sans armes, à l'exception du capitaine Göring. J'étais à hauteur de la rue de la Résidence qui débouche sur la place de l'Odéon. Là, le baron de Gudin, commandant le détachement bavarois, a ouvert le feu. On déplore 14 morts. Hitler, entraîné par la chute d'un camarade, est tombé. Une voiture l'a emporté en hâte. Le commissaire d'État et le général de Lossow semblent avoir repris la situation en main.
La fin des années 1920 est marquée par un capitalisme en crise et par la montée d'idées xénophobes et nationalistes, toujours plus virulentes. Ce premier quart du XXe siècle laisse donc le monde au seuil d'un avenir inquiétant, où les grands principes de liberté, de justice et d'universalisme prônés par la Société des Nations quelques années auparavant semblent plus menacés que jamais.
Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell. The roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though. Nobody knows me. Hostile, worried, lonely. We move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't sleep. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up?
Merci à Katia Sowells, historienne de l'art.
I feel the cost of it, pushing my body like I.
Prise de son, Manuel Couturier, Noé Chaban, François Saint-Jour, Pierrick Charles, Anthony Thomasson, Cédric Chatelus. Mixage, Cédric Chatelus. Avec la très précieuse collaboration de Véronique Lefaller pour les textes. Lecture, Delphine Caravec, Archivina, Anne Delavaux. Merci à Aliette Ovine pour son aide toujours indispensable. Coordination LSD, Emmanuel Laurentin, Marie-Vanna Bolivier et Anaïs Morales. 1900-1925, sentir le monde basculer, le temps des révolutions artistiques. Un documentaire d'Anne Toscan-Giudès réalisé par Somanina. To watch children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, that's my treat. All went fine till that kid got lost in the lost bar. Place went nuts, you can ask, I knew it was madness. Roll ran red, pure claret and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal.